Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée pour les visites radiophoniques, rentrée 2021-2022. Et on poursuit bien sûr notre aventure avec Nelly Lafont du Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et Caroline Entregue du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Alors Nelly, on va aller où aujourd'hui?
On t'amène au bord de l'eau.
Et on espère que t'as l'estomac bien accroché.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Allez, un peu de route, beaucoup de route même pour arriver ici à Pourcharès, de la route bien sûr depuis Mende, notre lieu de départ, à Pourcharès pour aller visiter Caro, le château de
Castanet.
Donc on est au château de Castanet, à côté de Pourcharès, de Villefort, sous un beau soleil. Pour en savoir plus un peu géographiquement, on est situé exactement où, Caro?
Donc là, on est dans la vallée de l'Altier. L'Altier, c'est le nom de la rivière qui est juste à côté de nous. On est au bord du lac de Villefort. Le lac de Villefort, c'est un plan d'eau qui a été créé en 1964. Et on est enserré par les reliefs du mont Lozère, juste derrière nous, de la Borne, où on a le Chassezac. Et les dernières pentes du Goulet. Donc, ce lac qui couvre 3 km de méandre sur la vallée de l'Altier, on est ici quasiment au bout en fait, de ce lac de Villefort. L'Altier, c'est une rivière typique du massif des Cévennes. Elle prend sa source face nord du mont Lozère, près du sommet de Finiels. Du coup, l'Altier fait 30 km à peu près de longueur et a rejoint du coup le Chassezac à pied de Borne, dans la vallée de la Borne dont je parlais tout à l'heure. On est le long de la RD 901.
On entend des travaux.
Oui, on entend des travaux justement parce qu'elle est justement en travaux en ce moment. Et on a croisé aussi, tu l'as dû le voir, Ludo, un très beau château qui fait un peu château de la Belle au bois dormant, qui est le château du Champ, qui est privé, juste avant sur la route. Du coup, la commune de Pourcharès, elle est très étendue, elle ne comprend pas de centre-bourg. D'ailleurs, la mairie de Pourcharès est sur Villefort. Et elle comprend de nombreux hameaux, environ 9, dont celui-ci, Castanet. Du coup, on est en face du château, qui tire son nom, château de Castanet. On est les pieds dans l'eau. Et derrière nous, un peu plus haut, on voit le village qui est séparé du château par la route départementale.
Castanet, j'imagine que c'est un lien avec les châtaignes?
Oui, le mot castanet proviendrait du mot châtaignier en occitan. On est évidemment dans les Cévennes ici et l'arbre emblématique des Cévennes, c'est le châtaignier, c'est l'arbre à pain. Depuis des siècles, le châtaignier donne aux Cévenols le fruit, feuilles, bois. C'est une espèce par contre qui n'était pas naturellement présente sur le territoire. C'est l'espèce qui a supplanté le chêne et il doit son développement à l'action de l'homme dès le XVIe siècle. Les pentes sont alors aménagées, il est planté, taillé, greffé. Le pays est transformé en un immense verger et à la suite de l'exode rural et des maladies, la châtaignerie se dégrade et recule et cela va provoquer une mutation des paysages et de leur identité. Alors ici, juste pour citer quelques plats à base de châtaigne, on a la fameuse badjane, c'est la soupe à la châtaigne, le châtaignon, la blanchette, etc.
Ça, c'était le principal apport économique à cette époque, le châtaignier.
Oui, exactement. Ouais.
Et du coup, oui, le châtaignier s'est plutôt bien adapté ici au sol, puisque tout autour de nous, ce sont des paysages en schiste. Et donc, la castagniculture, elle marque le territoire par le paysage, l'architecture et le nom des lieux-dits. Donc, on a énormément de charpentes à châtaigner ici. Sur les paysages, on peut voir de nombreux bancels, donc c'est les fameuses terrasses qui permettent de venir le cultiver. Après, le châtaignier, en ce moment, pose des questions liées notamment au réchauffement climatique, son adaptation à la modification du sol, à l'acidification et à la sécheresse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le châtaignier va créer un peu de mouvement dans le paysage qu'on peut voir aujourd'hui. D'ailleurs, autour de nous, on voit plus de bouleaux finalement que de châtaigniers aujourd'hui. Et on voit également aujourd'hui l'implantation de nombreux vergers, notamment la culture de la pomme, qui est très reconnue sur la vallée de l'Altier, avec les jus de pomme de la vallée de l'Altier. On n'en voit pas ici autour du château, mais on l'a vu un petit peu plus haut sur la route.
Tu parlais de schiste tout à l'heure, Caro, mais le château n'est pas en pierre de schiste, si ?
Et non, justement, le château n'est pas en schiste, mais il est bien en granit. Nelly, si tu veux pouvoir en dire un petit peu plus là-dessus ?
Effectivement, la roche, donc pays de schiste, mais château en granit. On l'a vu hein, dans nos nombreuses visites et puis même en se baladant, la roche participe au paysage. Le granit du mont Lozère cohabite avec le schiste des Cévennes. Et si l'on observe les maisons du village, elles sont construites avec les deux roches. En fait, le granit n'est vraiment pas loin. On est sur un endroit très intéressant au point de vue géologique. On a deux failles géologiques qui traversent la commune. La célèbre faille de Lozère et la encore plus célèbre faille de Villefort. La faille de Villefort, ou dislocation Grégordane, c'est une faille majeure des Cévennes. Elle court sur plus de 40 km depuis Alès jusqu'à la Bastide. Elle date de la fin de l'ère primaire et elle représente vraiment une cassure du mont Lozère. Et en fait, elle va décaler horizontalement vers le nord de 12 km le massif granitique de la Borne. Et ça provoque donc le soulèvement d'une partie des Cévennes. C'est pourquoi ici, on trouve donc schiste et granit pas loin.
Oui, parce qu'il faut imaginer cette question de faille, un paysage qui est complètement transformé par l'arrivée du lac. Hein. Donc aujourd'hui, le château il se retrouve baigné par le lac de Villefort, mais autrefois, il dominait une vallée de l'Altier, donc vraiment cette question de la faille. Hein. Et le château était sur un petit peu un promontoire rocheux. Voilà. Le château va être épargné avec la construction du lac, mais par contre, tout ce qui va être annexe a été complètement modifié. La vallée, elle est complètement plongée dans l'eau, les vergers disparaissent. Donc c'est vrai que ce que tu vois aujourd'hui était en réalité une vallée beaucoup plus encaissée.
Un promontoire rocheux ici, on a du mal à l'imaginer. Pourquoi du coup le château a été construit ici même ?
Parce qu'on est ici sur un emplacement stratégique. Au carrefour de voies de communication, donc on a la fameuse le chemin de Grégordane et la Via Soterana dont on a parlé hein, plusieurs fois dans nos visites. On est donc sur un lieu d'échange, de commerce. Castanet faisait partie du mandement de la gare de Guérin, c'est-à-dire d'un territoire organisé dont le chef-lieu était la gare de Guérin. Donc l'histoire du château de Castanet est liée à celle de la gare de Guérin qu'on a visitée l'année dernière. Il est mentionné pour la première fois au XIIIe siècle comme une manse justement de la gare de Guérin. Ainsi, la position géographique stratégique de la gare de Guérin et de Villefort a été un enjeu majeur au fil des siècles, expliquant l'apparition d'une architecture défensive telle qu'on peut l'observer à Castanet. On pense d'ailleurs que le château de Castanet a de nombreuses similitudes avec ce que devait être le château de la gare de Guérin, c'est-à-dire un bâtiment en granit de plan rectangulaire à l'allure médiévale défensive, quatre tours, trois circulaires et une rectangulaire, faisant office de tour d'escalier.
Donc pour te souvenir, Ludo, à la gare de Guérin, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui plus qu'une tour, mais lors de la visite, on avait vu ce qui restait du château. Et donc, voilà, le château de la gare de Guérin devait certainement ressembler à celui ici qu'on a au Castanet. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'aspect, il a été profondément bouleversé avec l'aménagement du barrage. Donc aujourd'hui, tu vois un bâtiment qui est complètement isolé. Mais initialement, il y avait une masse de construction autour du château, ainsi qu'un pont qui reliait l'autre rive de l'Altier. D'où cette question de voie de communication, de lieu de passage. On avait un immense verger qui était planté de pommiers. Au niveau de la vallée. Et une partie des abords du château ont complètement disparu. À la place de cette grande plateforme sur laquelle nous sommes, on avait des bâtiments annexes, une enceinte, des basses-cours, des granges et le fameux pont du coup, qui reliait à la rive de l'Altier qui ne sont plus du tout visibles aujourd'hui. Ils ont été visibles récemment quand le lac a été vidé il y a quelques années.
Du coup, un verger de pommiers là qui est actuellement sous l'eau, le pont, il y avait des habitations aussi qui ont été englouties ?
Alors c'était plutôt l'activité agricole hein, du château qui a été ensevelie, voilà, la basse-cour, les granges, etc. Quand Nelly parlait de manse, une manse c'est quand même quelque chose qui a une vocation agricole et qui a été un petit peu fortifiée de manière un peu plus défensive. Voilà.
Du coup, en fait, finalement, ils ont choisi d'ensevelir des bâtiments ici, sur cette plateforme ?
Oui, donc du coup, dans les années 60, quand le lac a été créé, il y a vraiment eu une discussion et un échange avec EDF pour savoir, du coup, le niveau d'eau. Qu'est-ce que l'on garde ? Qu'est-ce que l'on met sous l'eau ? Quel niveau d'eau on va garder pour conserver ce magnifique patrimoine du château de Castanet, mais en même temps permettre l'installation du lac ? Donc, on va consolider une partie des maçonneries qui vont être immergées, puisque du coup, les salles basses vont être transformés en caves et vont être inondés potentiellement une grande partie de l'année, notamment l'hiver. Et du coup, EDF va donner les autorisations pour la réalisation des travaux de consolidation. On va créer une plateforme artificielle qui s'appuie sur les fondations des bâtiments annexes détruits, dont je parlais tout à l'heure, hein, la grange, etc. Et ça permet d'ancrer solidement le château à la rive.
Il y a des salles qui sont toujours immergées ou, suivant l'époque, l'eau descend assez pour qu'on puisse découvrir ces endroits.
Ben justement, on va rentrer dans le château et en fait, le rez-de-chaussée donc, dont vient de parler Caro, il n'est pas toujours inondé. Donc, on peut le visiter une grande partie de l'année et on va pouvoir le faire aujourd'hui.
Et par contre, du coup, comme le rez-de-chaussée a été inondé, on a aménagé cette nouvelle entrée latérale qui est juste à côté devant nous, avec un escalier sur un demi-niveau qui n'existait pas du coup à l'époque puisqu'on était un niveau au-dessus.
Donc on va rentrer dans le château et on va voir que chaque niveau, d'ailleurs on le voit un petit peu de l'extérieur, chaque niveau s'organise de la même façon. On a trois niveaux d'élévation desservis par un escalier monumental en pierre.
Peut-être juste avant de rentrer, Ludo, on peut regarder un peu cette façade. On voit bien là le rôle défensif du château. On a ici ce qu'on appelle des bouches à feu sur la façade. On peut voir quelques meurtrières, quelques canonnières. Voilà, donc on voit bien vraiment le rôle défensif. On a peu de grandes ouvertures hein, de ce château. Vraiment, le rôle défensif prédomine sur l'ensemble de ces façades.
Allez, on va rentrer. Donc là, on est au rez-de-chaussée, on arrive dans une salle avec un cantou.
Oui, et donc je ne sais pas si les auditeurs l'ont entendu, mais en fait, pour accéder au rez-de-chaussée, donc on est descendu, puisque c'est le rez-de-chaussée d'origine et qu'aujourd'hui, on entre dans le château par une porte latérale qui a été aménagée, comme le disait Caroline.
Donc là, on est dans cette salle avec une belle cheminée, hein. Voilà, au-dessus de la cheminée, tu peux voir le blason, qui est le blason des Izarnes, et qui occupe le fond du coup de le fond sud un petit peu de cette salle. On a sur le côté un évier qu'on va aller voir. Donc là, on a passé le salon, hein, et on arrive dans une deuxième pièce, un peu plus petite. Là aussi, une très belle cheminée avec un four à pain. Et sur le côté, on peut voir ici un très bel évier qui est ménagé directement dans le mur sud. Et on est bien sûr sur un rez-de-chaussée qui est totalement voûté sur l'ensemble de ce niveau.
En fait, on est, qui dit rez-de-chaussée, on a déjà visité plusieurs châteaux ensemble, on est dans les parties communes, on va dire, puisque souvent, on va l'étage noble va être ménagé plutôt aux étages. Donc on va retrouver ici les pièces de vie commune comme la cuisine, les pièces pour recevoir aussi, ou alors les dépendances.
L'évier, c'est un peu sous forme de bénitier.
Alors, tu as une partie, ce que tu appelles le bénitier, soit c'est la partie en fait qui va permettre de faire couler l'eau, puisque c'est une pierre ronde trouée en fait. Donc ça permettre de faire couler l'eau comme un robinet. Et en dessous, on a une grande pierre plate qui représente l'évier, la partie où on va pouvoir utiliser la partie utilitaire. Et cette pierre plate est elle aussi trouée dans son fond pour faire écouler l'eau usée à l'extérieur. Là, on a un évier qui est extrêmement bien travaillé et on a en plus toutes sortes d'étagères ménagées de part et d'autre de la pierre plate.
Et tout ça en granit taillé.
Donc on amenait l'eau par seau pour pouvoir se servir de l'évier.
C'est ça.
C'est vrai, c'est magnifique, j'en ai jamais vu.
Là, c'est beau.
C'est le premier que je vois. Ça, c'est sous l'eau des fois ?
Oui, oui. Ah. On arrive à voir à certains endroits jusqu'où l'eau peut monter, en fait. Donc, cette partie-là, effectivement, va sûrement être bientôt remplie d'eau.
Engloutie. Nouvelle pièce, juste à côté de cette cuisine.
Oui, donc là aussi, une nouvelle pièce voûtée, elle aussi avec une cheminée. Moins grandiose que celle qu'on a pu voir de part et d'autre. Par contre, je te laisse regarder la voûte, juste au-dessus de nous. Et du coup, cette voûte, on voit même par contre qu'elle est en schiste.
Et donc, on est derrière le cul de four du four, justement, du four à pain. Donc, on est dans une partie, là, davantage utilitaire que la partie que Caro a décrite tout à l'heure, avec la grande cheminée plutôt d'apparat, avec le blason des Isarnes, qui prenait quasiment toute la largeur de la pièce, en fait, hein, cette cheminée. Ici, on a une cheminée plutôt sûrement utilitaire pour cuisiner, pour ce genre de choses.
On revient dans la première pièce, Caro, on voit qu'il y a eu des travaux, des portières ont été bouchées ici.
Oui, ça fait partie certainement des travaux de consolidation, hein, puisque ce niveau-là est complètement immergé pour pouvoir préserver au maximum le lieu. Une partie des entrées ont été complètement rebouchées, dont ces deux portes dans la pièce centrale.
Donc au-dessus de cette cheminée, de ce compte-tout, Nelly, tu nous as parlé du blason. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, on a le blason des Isarnes. C'est le premier propriétaire. C'est celui qui a fait construire Castanet au moment des guerres de religion. À la même période, le marquis de Molette de Morangès, dont on a déjà parlé au château du Boy, et seigneur de la gare de Guérin, fait construire son château à l'intérieur du castrum de la gare de Guérin. C'est donc deux architectures, deux constructions qui ont une architecture similaire, et les seigneurs ont un lien de parenté puisqu'ils sont beaux-frères. Donc voilà, il faut imaginer qu'on assiste pendant les guerres de religion à une mise en sécurité vraisemblablement concertée du secteur, alors que les tensions apparaissent sous la menace de la remontée des protestants depuis le sud des Cévennes. Et donc pour terminer, au moment des guerres de religion, au XVIe siècle, de nouvelles tensions se développent. Le château de la gare de Guérin est pris et détruit lors d'une attaque des protestants.
On sait pourquoi son frère a construit le château ici. On sait qu'à la gare de Guérin, il y avait plusieurs seigneurs qui habitaient là-haut. Pourquoi il n'a pas construit son château à la gare de Guérin également, à côté de celui de son frère ? Et pourquoi ici ?
Mais sûrement parce que c'est une mise en sécurité de toute la vallée. Donc le fait de... Déjà, c'est pas le même seigneur, hein, ils sont simplement beaux-frères. Donc chacun est propriétaire d'un domaine et doit le protéger. Donc ça va leur permettre en tout cas de facilement administrer ce territoire et de le protéger avec en ponctuant ce territoire de château.
Oh messieurs, mes vieux os. We'll be right back.
Donc on vient de monter à l'étage qui diffère totalement avec ce rez-de-chaussée déjà, et on peut voir un plancher ici.
Oui, donc on a ici un plancher. Par contre, finalement, le plan de cet étage est assez similaire au plan du rez-de-chaussée. Donc ici aussi, on a quatre salles, toutes pourvues de cheminées, qui sont toutes ornementées. On a des pieds droits, des demi-colonnes, des cannelés. Et on a aussi un manteau qu'on voit juste ici, qui est orné d'une peinture, qui représente une scène de chasse. On voit aussi un joli plafond à la française, juste au-dessus de nous, qui est peint et décoré. Alors, du coup, ces planchers sont reconstitués. On en parlera tout à l'heure, mais en effet, il y a eu un incendie dans ce bâtiment-là. Donc, le choix a été de refaire, du coup, ce plafond à la française, avec des décors qui n'ont rien à voir avec certainement ce qu'il y avait ici à l'origine. Et comme au château du Boy qu'on a visité la dernière fois, donc le plafond à la française, ce sont des grandes poutres, et au-dessus de ces grandes poutres, des solives, donc des petites poutres, très rapprochées. On a quand même de maintenir le plancher qui est au-dessus.
Tu parlais d'incendie ?
Oui, donc il y a, dans la nuit du 16 au 17 mars 2000, un incendie va ravager le château. Et donc suite à ça, les travaux de reconstruction vont débuter 4 ans plus tard, en 2004. Et il va falloir plus d'un an de travaux avant de pouvoir réinvestir les lieux. Après l'incendie, donc en concertation avec les différents services des monuments historiques, le parti architectural adopté a été de restituer le château tel qu'il pouvait être au XVIe siècle. Donc, mais voilà, il faut imaginer que l'incendie vraiment va complètement détruire l'ensemble du château. On voit très bien son état sur plusieurs documents iconographiques. Et donc, voilà, les services des monuments historiques et les restaurateurs vont tenter de rendre un peu l'ambiance du XVIe siècle telle qu'il pouvait être à cette époque-là.
Pour préciser, hein, ce qui a été incendié, surtout tous les planchers, hein, l'extérieur a finalement peu été bougé, c'est vraiment de la partie intérieure dont on parle là.
Un plafond à la française, finalement, c'est juste esthétique ou ça permet de consolider ou non ?
C'est surtout esthétique. Après, c'est une technique constructive particulière. Voilà, en Lozère, on en a un petit peu quand même des plafonds à la française. Mais c'est une technique voilà, assez particulière qui permet d'avoir des solives assez resserrées et donc d'avoir des planchers au-dessus qui peuvent être posés en pointe de Hongrie, comme on le voit. Ce n'est pas le cas ici, mais ça permet d'avoir des motifs de bois plus intéressants comme plancher traditionnel.
Allez, on va changer de pièce, on change d'étage. Sur ce niveau-là, Caro, les pièces se ressemblent finalement. Une grande cheminée, même plafond, même plancher.
Oui, oui, les quatre pièces sont assez identiques. Les cheminées, par contre, et leur décor voilà, diffèrent un petit peu. On a un seul décor peint qui a été reconstitué sur une des cheminées. Les autres, le décor, c'est vraiment les petites colonnettes, voilà, comme ici, qui sont cannelées en granit.
Voilà, on n'a pas décrit le décor, hein. Je sais pas, y a rien de, c'est une scène de chasse, rien d'extraordinaire, Nelly.
C'est joliment décrit, effectivement, comme tu le dis. Non, mais là, en fait, pour s'imaginer, on est vraiment dans une enfilade de pièces plutôt d'apparat, avec des pièces plutôt hautes de plafond et assez larges, comparé au rez-de-chaussée où on avait un étage qui était entièrement voûté, enfin un étage non, un niveau entièrement voûté avec pierre apparente. Ici on a des murs enduits, planchéiés et enfin un étage planchéié et plafond à la française. Voilà, donc on est dans l'étage noble et dans une enfilade de pièces d'apparat avec de belles cheminées qui ornent chaque espace.
Allez, on monte à l'étage, ben des pièces qui se ressemblent finalement avec l'étage du dessous.
Oui, complètement, oui.
Oui, comme on l'a dit, les trois étages ont la même disposition. À chaque pièce, une cheminée. Ici, la reconstitution d'un plancher également à la française. Celui-là, par contre, n'est pas décoré et pas peint. La seule différence qu'on a ici, c'est les latrines, donc un encorbellement sur l'extérieur.
Voilà, donc pour expliquer à nos auditeurs, hein, c'est simple, hein, c'est un petit banc en pierre et un trou qui sort directement dehors.
Une pierre percée, effectivement.
Et c'était les seules latrines du château? Les gens devaient monter ici pour faire leurs besoins?
Je pense que oui, c'est les seules qui sont encore en place. Ouais.
On n'en parle pas depuis le début, mais dans chaque pièce, la vue est magnifique. On voit ce lac, donc avant, j'imagine, on voyait ces vergers et cette rivière qui coulait.
Oui, la vallée de l'Altier, c'est vraiment ce qu'on appelle l'identité paysagère à part entière. On a le schiste qui est très affleurant sur cette vallée. On a un paysage qui est très vert et qui va être qui a des couleurs différentes vraiment au fil des saisons, entre les genêts, l'automne. Et on voit que cette vallée est encore assez ouverte finalement sur les pentes. On a peu de reboisement, donc ça permet de voir le schiste dans tout un univers quand même très cévenol. Et sur les menuiseries, ce qui est très beau, c'est donc ces menuiseries bois qui ont été refaites un petit peu à l'identique avec des volets en bois intérieur.
Alors, Aurélie, on s'est arrêté avec le premier propriétaire de ce château, Jacques Izarn. Est-ce qu'on peut faire un petit historique de la suite?
Oui, alors rapidement, donc je passe un petit peu. Jacques Izarn, on a dit au moment des guerres de religion, hein, donc au XVIe siècle. Je passe un peu les siècles suivants. On sait que pendant la période révolutionnaire, le château va devenir bien national et il va être vendu à Théodore Borély et Joseph-André de Villefort. Et puis, on passe directement après au XXe siècle. En 1956, commencent les études pour la construction du barrage de Villefort qu'a évoqué Caroline en début de visite. 10 ans plus tard, en 1964, l'aménagement hydroélectrique de la vallée du Chassezac commence. Et c'est à ce moment-là que le château a failli disparaître, noyé par les eaux du lac. Donc la même année, ce château est inscrit au titre des monuments historiques pour justement empêcher sa destruction. C'est à ce moment-là qu'il est rétrocédé par EDF au syndicat intercommunal Villefort-Pourcharès-Prévenchère, qui est donc propriétaire du château aujourd'hui.
Et donc aujourd'hui, il se visite. On n'en a pas parlé, mais dans chaque pièce du premier étage, il y a des explications, des panneaux explicatifs sur ce qu'était la vie du château et sur certaines pièces d'ailleurs pour le travail de la châtaigne.
Alors oui, le château se visite chaque été. Il est ouvert également pour les journées du patrimoine. On a vu au premier étage, il y a une exposition sur la vie rurale d'autrefois sur la vallée. Et puis au deuxième, une exposition sur le Chassezac. En parallèle de ça, chaque été, le château accueille une exposition d'art contemporain. Enfin, le château de Castanet et la commune de Pourcharès font partie du pays d'art et d'histoire depuis 2018. Donc, on peut le visiter aussi accompagné d'une guide conférencière, notamment en canoë, tous les étés avec le pays d'art et d'histoire. Il n'y a pas loin, on y est passé devant, mais une guinguette aménagée au bord du lac. Donc, c'est l'occasion pour tout le monde de venir profiter, baignade, bien manger et visiter le château.
Il y a aussi une via ferrata juste à côté du château, donc c'est vrai qu'on peut venir passer la journée entière à Castanet de manière assez agréable.
Voilà, et donc un projet en cours, donc la création d'un escape game qui sera normalement mis en place pour l'ouverture 2022, donc l'été prochain, et la création d'un petit parcours de visite dans le château dédié à l'histoire et à l'architecture du monument.
En parlant de l'escape game, Nelly, il y a une actualité du pays d'art et d'histoire?
Oui, alors le week-end prochain, le 23 et 24 octobre, on donne rendez-vous au château du Boy, que maintenant on connaît bien, pour une murder party, en fait, pour un week-end un peu décalé où on vous invite à une visite où il va se passer quelque chose et où il va falloir mener l'enquête en compagnie de fantômes.
Et il faut vite réserver parce qu'il commence déjà à rester plus beaucoup de place.
C'est ça, il reste très peu de place. Il en reste surtout pour le dimanche à 14h et à 16h. Les deux visites du samedi sont... Enfin voilà, la visite du samedi 16h est complète. Et la visite du samedi à 14h, il reste 2 places, donc dépêchez-vous.
Vu qu'on parle d'actualité, il y a eu des travaux de rénovation. On va remonter un peu, mais par exemple, suite à l'incendie, il a été retravaillé comment, ce château ?
Oui, donc après les années 2000, hein, suite à l'incendie, on a eu une couverture en lauzes de schiste qui a totalement été reprise. Avec les losses du tournel, mais par contre des losses de récupération, parce que le toit est tellement grand que la carrière ne pouvait pas fournir de losses neuves d'une aussi grande surface. Donc du coup, on a démonté le toit d'une grange voisine pour pouvoir refaire la toiture de ce château, avec bien sûr une nouvelle charpente dessous qui est forcément en châtaignier.
On finit avec une petite anecdote quand même sur ce château ?
Oui, alors vraiment une anecdote qui tue pour briller en société. Donc on a évoqué rapidement les différents propriétaires qui se sont succédés. On en était resté au syndicat intercommunal Villefort-Pourchard-Esprit-Vencher qui va le donner en gestion à une Madame Gibert. Est-ce que tu sais qui c'est cette Madame Gibert ?
Absolument pas.
C'est la propriétaire de toutes les librairies Gibert qu'on a aujourd'hui partout en France.
Et voilà. Alors si tu veux, parce que celle-là, c'était une super anecdote pour briller en société, on en a une encore mieux. Caro ?
Est-ce que tu sais pourquoi le lac de Villefort est unique en France ?
Je ne sais pas.
En fait, au milieu du lac, il y a une pisciculture du GAEC Truite du Mont-Lozère. Et donc, ce sont des truites élevées bio, arc-en-ciel, dans des cages suspendues en pleine eau. Et donc, ce procédé sur un lac de barrage EDF est unique en France, parce que du coup, il permet un élevage où la densité de poissons est moindre que dans les bassins de pisciculture traditionnels.
Très intéressant tout ça, merci beaucoup. Et pour les auditeurs qui nous suivent dans ces visites depuis le début de la création de cette émission, on a pu remarquer que Nelly avait donc inventé l'anecdote qui tue pour briller en société au lieu de l'anecdote qui tue ou celle pour briller en société. Bref, c'était une...
combo pour le plaisir.
Voilà, et c'était une belle visite. Le mois prochain, on va aller vers où ?
On va rester au bord de l'eau, mais dans une autre vallée, et on va voir si on retrouve pas Napoléon. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.